de mon amour.
Si seulement vous n'aviez pas oublié votre cheval, j'aurais pu rentrer.
C'est ça, ouais.
Attendez, aidez-moi. Oh là, le cheval.
Avec Denis Chessou.
Où ça? Là. Mais c'est un merle.
Sous le merle.
Il n'y a pas de cheval sous le merle.
Mais si. Ah ben, je vois plus le merle. Vous voyez le cheval?
Oui.
Au-dessus.
Ah oui, je vois le merle.
Eh ben, voilà.
Sur France Inter.
Cette tête de là.
Ah, vous voyez, on a encore un peu de pédagogie à faire. C'est Haut de mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Bonjour à tous, à la technique aujourd'hui, Alix Barrois. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Xavier Pestugia qui réalise la dite émission. Avec une petite humeur, parce qu'en nous écoutant, peut-être tournez-vous votre cuillère dans votre café pour faire fondre un sucre. Eh bien, ça tombe bien, on va le regarder, le sucre, avec cette fable moderne, la betterave, l'abeille et l'élu. Qu'a-t-on retenu récemment de cet épisode symbolique de notre agriculture, hein, qui transforme une partie de nos champs en paillasse de laboratoire? Eh bien, qu'il faut sauver l'industrie agricole du sucre, donc rendez-nous les néonicotinoïdes pour lutter contre ces pucerons ravageurs qui transforment nos champs en maillot jaune. Ça, c'est vrai. Ce que l'on nous dit, les betteraves sont récoltées avant la floraison, donc les pollinisateurs sont peu exposés. Ça, c'est en partie vrai, car quand même, les abeilles aiment s'abreuver des gouttelettes d'eau portées par les feuilles. Et ce qu'on nous rappelle très peu, c'est ce qu'est un néonicotinoïde, c'est-à-dire une semence enrobée d'un insecticide, c'est à peu près la même famille que les colliers antipuces de votre toutou, mais une partie seulement de l'enrobage va dans la plante et une grande partie reste 5 ans dans le sol et va donc nuire à la faune en cas de lessivage, en plus par les pluies, ça va plonger goulûment dans les prairies et dans les cours d'eau. Notre Terminator à large spectre ne plaint pas le boulot, et non, parce qu'il ne va pas détruire que le méchant puceron qui aime la betterave. Nos joyeuses molécules persistantes vont s'accumuler et tueront donc une faune non ciblée. Exemple ver de terre, qui souhaitait faire honnêtement son boulot de travaux publics souterrains. Et bien là, ce sont donc des milliers d'espèces qui vont être touchées, ainsi que toute la chaîne alimentaire. Alors ce traitement, c'est un peu comme si vous preniez des antibiotiques avant d'être malade. Traiter ce qui est malade, oui, mais pas avant, sinon on imprègne tout un environnement, c'est rémanent, c'est puissant. Cette mauvaise pratique agricole favorise en plus la résistance aux insecticides, donc c'est une belle course en avant. Et ça fait quand même plus de 10 ans que les scientifiques constatent les dégâts sur les pollinisateurs et le reste. Qu'on parle de cette toxicité et qu'on a peu avancé sur les solutions possibles. Bah pourquoi? Parce que les semenciers et syndicats d'abord sont très efficaces et aussi parce que les recherches sont très peu financées. On ne finance pas la recherche à la hauteur de la gravité de la perte de biodiversité chez nous en France. Alors autant du Covid qui nous montre à quel point nous pouvons être fragiles, à quel point on a intérêt à soigner la nature, on va dire qu'on continue à vivre dans le monde, comment qu'on l'appelle ça? Oui, le monde d'avant. Qu'est-ce que l'on va dire aux producteurs de maïs, de blé qui frappent déjà à la porte des ministères pour utiliser eux aussi ces fameux néonicotinoïdes? Notre ministre, d'ailleurs, dès 2016, a porté la loi, ce combat les interdisant. Eh ben, elle était obligée d'aller à l'encontre de ses convictions. Il y avait dans cette loi donc des possibilités de dérogation et peut-être que demain, ce sera valable pour toutes les cultures jusqu'en 2023. Et des agriculteurs, agronomes, on en a besoin car c'est un beau métier. Donc, c'est une affaire à suivre au pays de l'écologie dite pragmatique, qui parfois porte le nom d'enfumage et d'écocide. Bon allez, faut pas en vouloir à votre sucre, il y est pour rien après tout. Bon café. Alors avant de s'intéresser à cette association donc dans la Drôme, l'ASPAS, faisons un petit tour là aussi avec une actualité. Bonjour Benoît Thomé.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes le président de l'association Animal Cross, l'association française de protection et de défense de tous les animaux. Et là on va parler d'un escaladeur hors pair, de la famille des bovidés, mais c'est un capriné, une chèvre sauvage qu'on appelle le bouquetin, on le connaît. Il a été réintroduit dans les années 1970 dans les Alpes françaises. Et alors ça fait pas toujours bon ménage évidemment avec les éleveurs. On a 600 à 700 bouquetins sur le massif du Bargis, donc là on est entre la Haute-Savoie, on n'est pas loin du col de la Colombière, on n'est pas loin de la Savoie donc non plus. J'ai écouté nos amis de France Bleu qui disaient que un épisode difficile pour les producteurs laitiers de la commune du Grand Bornand donc avait vu le jour, parce qu'en 2012 la production était anéantie, le cheptel a été contaminé par la brucellose. Donc on s'est dit allez, on va fusiller les bouquetins. 482 bouquetins ont été abattus en 2012. Et là de nouveau un épisode on va dire presque similaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous.
C'est depuis 2012 qu'il y a eu 500 bouquetins qui ont été abattus. Et le plus frappant, c'est qu'il y en a 350 qui ont été abattus sans qu'on regarde s'ils étaient contaminés, c'est-à-dire s'ils étaient positifs à la brucellose. Et de nouveau, cette année, comme chaque année, le préfet prend un arrêté pour tuer de manière indiscriminée 60 bouquetins sur 3 ans, c'est-à-dire 20 bouquetins cette année, sans chercher à comprendre s'ils étaient contaminés.
C'est-à-dire qu'on ouvre le parapluie, quoi.
Ben oui, pour nous, cet abattage indiscriminé est totalement inacceptable. On a demandé ce qu'on appelle une suspension de la décision, que nous avons obtenue. C'est une des premières victoires des associations sur le terrain législatif depuis 8 ans. Donc on a obtenu 7 victoires jusqu'à un jugement sur le fond qui va arriver dans quelques mois. Et en attendant, il n'y a pas d'abattage de ces animaux-là.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr du tout que ces animaux soient infectés. Hein. Donc c'est ça, donc avec une contamination auprès des vaches, donc ces vaches après donc donnant du lait, et le lait donnant du reblochon, hein, parce qu'on est vraiment dans le quartier du reblochon là.
Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, effectivement, c'est qu'on est dans le pays du lait cru, et ça nous donne pour le lait de vache du reblochon, pour le lait de chèvre du chevrotin, et ce lait n'est pas pasteurisé, et donc peut effectivement passer ensuite dans la consommation humaine. Mais ce qui est quand même très important de faire comprendre en termes de niveau de risque, c'est que depuis 2012, il n'y a pas eu d'atteinte ni chez l'homme, ni chez les animaux. Et nous, on considère que le niveau de risque est faible et on se base sur l'avis des autorités sanitaires. Pour nous, effectivement, le risque est minime. Et donc, en tant que tel, si on veut que le risque soit zéro, notre proposition, en fait, c'est la proposition d'experts indépendants qui s'appelle le Comité national de protection de la nature, qui n'ont de cesse de rappeler depuis 2013 que si on veut encore baisser le niveau de risque, il faut ce qu'ils appellent eux une ségrégation spatiale en termes un peu.
Qu'est-ce que ça veut dire une ségrégation spatiale?
C'est-à-dire qu'il faut parquer les animaux ou en tout cas il faut les clôturer pour qu'ils ne remontent pas dans la partie supérieure de la montagne où résident les bouquetins.
Et on pourrait pas laisser faire non plus un petit peu le loup là, parce que de toute façon il a évidemment très très mauvaise réputation, mais au lieu de s'attaquer aux moutons, s'il pouvait bouffer un peu du bouquetin, c'est possible ça, non?
Ah ben alors là c'est une excellente idée. Alors il faut savoir qu'actuellement en Haute-Savoie il y a 71 tirs de loups autorisés en ce moment. Et l'endroit dont je vous parle, c'est vraiment un endroit à loups. Hein. Donc effectivement, le loup pourrait tout à fait faire son travail et résoudre plusieurs problèmes en même temps, diminuer les bouquetins et croquer éventuellement moins d'animaux d'élevage. Mais cette solution, on ne veut pas en entendre parler.
Benoît Thomé, quels sont les enjeux en fait en une phrase?
La question de fond, c'est la place qu'on veut vraiment laisser aux animaux sauvages. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut laisser la montagne à l'animal sauvage et faire en sorte qu'effectivement les animaux domestiques n'accèdent pas à son territoire, parce que c'est pas le bouquetin qui descend dans les vallées, c'est vraiment les animaux d'élevage qui montent dans les montagnes et montent même dans les pierriers où habitent les bouquetins.
Eh bien, ça nous fait une bonne transition, là, Benoît Thomé. Donc, et moi, je rappelle que vous êtes le président de l'association Animal Cross. Vous avez toutes les coordonnées sur le site de CO2 Mon Amour. À bientôt. Merci à vous, Benoît Thomé.
Au revoir, Denis.
Quelle joie l'emporte, ce diable au sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les œuvres qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confetti en désordre, qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle. Encore, on l'entendait dans tous les ports, clamer dans l'amertume sa soif de solitude. De son cœur jaillissent des hordes de confetti en désordre, qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle avec elle.
Choisi par Thierry Dupin, c'était Voyou Carnaval. Alors, Carnaval de la nature, là, vous êtes à la bonne porte, on part dans la Drôme.
C'est lui, Madeleine, là ? Votre ami ?
Oui, c'est ça, Denis. Ouais. Faut un peu monter, mais ça, c'est le bel être qui surplombe la propriété.
Et quel âge est-il, ce être, ce faillard ?
Ah ben là, vu la circonférence, il doit avoir dans les 300 ou 400 ans.
Alors là, nous sommes, j'allais dire, chez vous maintenant. Et oui, on est chez vous depuis novembre 2019, donc dans cette réserve de vie sauvage. Et alors tout de suite, Madeleine Rubin, puisque vous êtes la directrice de l'ASPAS, quels sont les buts de l'ASPAS ?
L'ASPAS, donc Association pour la Protection des Animaux Sauvages, c'est une association qui a 40 ans, qui fonctionne sans subvention publique, et c'est important de le dire, parce que c'est ce qui lui donne sa liberté de ton et d'action. Et bien l'ASPAS, depuis 40 ans, essaie de réhabiliter les animaux mal aimés, ceux pour qui on a une mauvaise image ou des préjugés. Et on le fait par la sensibilisation ou le contentieux juridique, on fait évoluer le droit de l'environnement. Et puis là, depuis 10 ans, en fait, on acquiert des territoires pour en faire des réserves.
Déjà, on a les premiers visiteurs, la Madeleine.
Ah oui, là, c'est deux petits marcassins qui profitent encore du frais, là, de l'ombre sous les arbres.
Des sons, de l'air, des chaussures de randonnée. Nous sommes dans la partie drômoise de ce Vercors. On n'est pas loin du col de la Bataille. Et d'ailleurs, s'en fut une pour acquérir ces 490 hectares de vie sauvage d'un seul tenant dans cet étage montagnard. Donc vous avez une partie qui était en territoire de chasse clôturé et puis donc une autre qui est ouverte. Et ça nous intéresse bien parce que c'est quand même une expérience assez étonnante d'en savoir plus avec donc Madeleine Rubin, vous l'avez compris, la directrice de l'ASPAS. En lui demandant tout simplement, l'envie au départ, c'était quoi ?
L'envie, c'était d'aller encore un petit peu plus loin dans la mission de l'ASPAS, c'est-à-dire montrer que d'acquérir des territoires pour les laisser en libre évolution, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et comment montrer que ça marche, en fait, c'est de montrer l'exemple. Donc acheter, pratiquer ce qu'on appelle la libre évolution, et puis montrer aux gens que si on arrête de tronçonner les arbres, si on arrête de tuer tout ce qu'il y a dessus, et bien petit à petit, le vivant en fait reprend son souffle et prospère rapidement, finalement, et généreusement.
D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, hein, c'est vrai que ça a été très très vite aussi. Bon, après, ils sont partis, hein, nos chers animaux, parce qu'ils ont compris que la ville, quand même, allait reprendre ses droits. Ça a été un combat. Combien de personnes, il y a eu de bénévoles, font dire quelques mots quand même de cela, parce que c'est très positif.
Alors, ce combat, en quelques chiffre clé, c'est quasiment 500 hectares. Mmh. Le budget, c'est 2 350 000 euros pour acheter le tout. Et les autres chiffres qui font chaud au cœur et qui montrent que ce projet a vraiment du sens, c'est 20 000 donateurs qui se sont alliés, qui se sont mis à nos côtés, qui nous ont aidés, qui ont fait des dons. Et donc, avec ces dons, on a pu acheter ce territoire.
C'est un territoire qui n'est pas sous cloche. C'est-à-dire que, en fait, les gens vont pouvoir y aller.
Oui, et ça, c'est un point important. C'est les réserves de vie sauvage, c'est pas de la nature hors sol, c'est pas de la nature sous cloche, c'est de la nature qu'on va laisser s'épanouir librement, mais surtout, on va laisser les humains aussi venir là, comme un vivant au milieu des vivants, comme un mammifère qui va se promener sur son territoire. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils déposent tronçonneuses et carabines à l'entrée. Et là, en fait, comme ça, les humains sont les bienvenus. Et au contraire, c'est comme ça que les humains vont reconnecter avec la nature.
Oui, parce que j'avais entendu donc une députée de la Drôme locale En Marche, donc qui est pas forcément d'écolo, c'est moins qu'on puisse dire, et qui répétait un peu donc les arguments des gens qui étaient contre ce lieu, quoi, en disant ouais, mais tout ça sous cloche, c'est plus à nous.
Dans ces projets, on le voit maintenant depuis 10 ans qu'on fait de l'acquisition foncière, il y a les personnes qui s'opposent par principe. Et là, on ne pourra pas faire grand-chose. Et puis, il y a les personnes qui s'opposent plutôt par crainte de peur, parce qu'on a peur du réensauvagement. C'est le gros mot. On a peur que d'un seul coup, le sauvage va revenir et tout dévorer, tout prendre. Et en fait, c'est aussi contre ces préjugés-là qu'on se bat pour montrer que non, le sauvage aussi, c'est beau, c'est juste des équilibres, c'est pas agressif. C'est juste sa place.
Alors c'est ça peut-être la clé, c'est-à-dire que psychologiquement, l'être humain il est habitué à dominer, on le sait. Et de foutre la paix à la nature, c'est parfois plus fort que lui, il n'y arrive pas. Quoi.
L'humain veut dominer et puis aussi l'humain veut avoir un sens, avoir un rôle. Et si on lui dit mais non humain, la nature elle va se débrouiller sans toi, là, arrête. Et ben en fait après qu'est-ce qu'on a à faire? On n'est plus utile, on n'a plus de sens. Mais si. et dans l'esprit aussi, on entend souvent, c'est heureusement qu'on entretient des paysages, heureusement, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Et ben quoi, en fait, ça veut dire que...
Gérer. Comment on gère tout maintenant aujourd'hui? On gère son budget, ses amours, tout ce que l'on veut, et donc la nature aussi.
C'est pas que les paysages vont d'un seul coup disparaître, se transformer, c'est qu'ils vont évoluer en même temps dans des fonctionnalités complètes où les animaux et les végétaux vont évoluer ensemble. Ça va changer les paysages, mais c'est pas mal.
Alors là, nous sommes dans une haie très superbe. On a toujours nos marcassins, ça va, ils sont tranquilles, hein. Ben, ils ont compris qu'ils n'étaient plus chassés. Alors là, un peu plus loin quand même, on a un cerf, mais je ne sais pas s'il est originaire d'ici celui-là.
Alors non, celui-ci effectivement c'est le cerf Sika, c'est un cerf qui vient d'Asie, ouais. Et qui a été réintroduit dans l'enclos de chasse. Légalement, la préfecture avait donné le droit à l'exploitant de chasse de réintroduire ces animaux parce que ces animaux servaient à la chasse. Donc ce beau cerf là, qu'on voit, il est un tout petit peu plus foncé que notre cerf élaphe. Et puis même au niveau du regard, il est un peu différent. Ce cerf Sika, bah, c'est un beau trophée pour la chasse et ça se vend facilement. Donc c'est une population qu'il faut entretenir sur ce site pour vendre des parties de chasse.
Comment allez-vous faire? Puisque maintenant, donc, il n'y a plus de chasse sur ce lieu. Donc, on est dans la partie qui est fermée, donc avec un enclos. Qu'est-ce que l'on fait? Parce que si on veut le rouvrir un jour aussi donc, au public, comment fait-on?
Alors aujourd'hui, la réglementation est très claire. C'est ces espèces-là, donc on a le cerf Sika et le daim, qui ont été réintroduits donc, par l'exploitant de chasse. Ils n'ont pas le droit d'être relâchés dans le milieu naturel. Ça veut dire qu'effectivement, on ne va pas pouvoir enlever la clôture tout de suite. Ouais. Après les avoir épargnés de la mort de la chasse en enclos, ces animaux, et ben maintenant, pour leur permettre de vivre, il va falloir qu'on les capture, qu'on les stérilise et qu'on les maintienne dans un enclos plus petit ou qu'on leur trouve un sanctuaire pour finir leur vie tranquille.
Alors, on va croiser qui là? On a déjà... ça a été facile, hein. On a vu en l'espace de, allez, de 4 minutes, on a vu les sangliers, les marcassins, on a vu notre cerf Sika.
Alors, on pourrait croiser avec un peu de chance des mouflons qui sont présents aussi sur le site. Des mouflons, bah, des biches.
Les Alors, dents, le mouflon, il est placide, hein. Il est tranquille, le mouflon.
Oui.
Ouais. Ça, on ne lui court pas après. Il a ses grandes cornes.
Oui, avec son beau masque. Il a un visage bien particulier.
Ça, rien à voir avec le confinement.
Mais... Il est beau, le mouflon. On pourrait aussi voir certains oiseaux, parce qu'eux, ils sont de passage un peu comme ils veulent, librement.
Il paraît qu'ils font ce qu'ils veulent. Ah, et puis là, vous avez laissé donc, une partie d'arbres morts, ce qui veut dire que c'est parfait comme gîte. Comme couvert aussi, pour différents oiseaux qui sont là.
C'est un des premiers points qu'on regarde quand on s'intéresse à un site. On regarde s'il y a des arbres morts. Ouais. Et c'est notre gros dada, ça, parce que sans arbres morts, on perd tout un pan entier de biodiversité. C'est vraiment quelque chose d'important pour une forêt de conserver les arbres morts, ouais, sur pied et après au sol, parce qu'en fait, l'arbre mort, il a 10 000 vies.
D'où le fameux slogan « Laissons vivre les arbres morts ».
Voilà. Tout à fait, où l'arbre mort, c'est la vie. Ouais. Quand on pense qu'il y a plus de 35 espèces de mammifères qui vivent autour d'un arbre mort, il y a entre 1000 et 3000 espèces d'insectes qui vivent du bois, de l'arbre mort, des champignons. En fait, c'est une biodiversité exceptionnelle.
Alors là, on va quitter un petit peu la forêt parce que on arrive sur un milieu beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire une jolie prairie calcicole, hein. On rappelle qu'on est sur le Vercors, donc c'est du karstique. Donc milieu calcaire, ouverture, et là, grande prairie. On voit des orchidées, là. C'est un milieu idéal, ça.
Ce site de Vercors Vie Sauvage concentre à lui tout seul des écosystèmes incroyables différents. Il y a cette magnifique prairie, il y a cette forêt, ce petit bout de forêt qu'on vient de traverser, il y a des bois beaucoup plus denses, et il y a également de la falaise. Il y a également des points d'eau. Donc, en fait, acheter ce site, ça avait vraiment du sens parce qu'il est déjà en plein potentiel de naturalité, déjà tout seul, si on arrête la pression humaine dessus. Ah ben, Denis, je parlais de falaise et on parlait d'aigle royal. Regardez.
Oh là 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 là. Ok, d'accord. Là, ça y est, ça festonne. Ça tourne.
Il est venu nous saluer, en fait. Oui, je pense, pour dire merci pour tout le travail qui est fait pour nous.
C'est un de ses gardes-mangers. Hein. Alors, ça fait partie en fait, de son territoire. Il lui faut à peu près 50 km². Ouais, il doit être seul, parce que sinon, il va se castagner avec d'autres aigles.
Oui, il a à boire et à manger, finalement, là, avec les prairies. Là. Et puis, il a un point de vue assez fantastique depuis ses falaises. Là. C'est...
Puis, il n'attend pas les soldes sur les lunettes, lui, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il est équipé. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il peut se balader à 1000 mètres, un peu plus bas, et repérer des choses qui bougent qu'on n'imagine même pas, nous.
Et on l'a eu à la caméra piège, parce qu'on pose des caméras sur le site, et en fait, on l'a vu venir se poser juste devant la caméra. C'était assez fantastique de relever la carte, on regarde les images, et là, on voit l'aigle royal qui vient, qui se pose et qui se réenvole. C'est majestueux.
Changer le regard et montrer que ça marche. Alors poursuivre de ce reportage dans quelques instants, toujours à 1000 mètres d'altitude. C'était Liane Lahavas sur France Inter dans CO2, mon amour.
Oh, hein ? Quoi ? Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Lorna ? Où ? Là, là.
CO2, mon amour ?
J'avais jamais vu de renard.
Bah, moi non plus.
Oh, si on pouvait l'attraper !
Alors, on peut déjà pas attraper un cheval, alors un renard.
Oui, mais ça, c'est plus petit, alors hop, bam.
Ah, c'est vrai, ça.
Oh. Avec Denis Chessou.
Hein ? On va l'encercler. Vous allez passer par là, on va faire un mouvement de ciseaux, de tenailles.
sur France Inter.
Alors, si vous souhaitez les retrouver du renard, je vous rappelle qu'il y a une émission qui a déjà été effectuée. Vous tapez sur le site, podcast, CO de mon amour renard, et normalement, tout y est. Alors, moi, j'avais tourné donc ce reportage dans la Drôme, donc avant une manifestation qui a eu lieu au mois d'août. Manifestation de chasseurs et d'éleveurs qui étaient à Cray et qui se sont émus de la sanctuarisation des campagnes, ce qui mettrait en danger les territoires, les activités sociales, culturelles, n'en jetez plus. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était se faire l'espace, parce que ça, ça les énerve. Et alors, effectivement, 700 hectares protégés par cette association, c'est-à-dire 0,1% du territoire de la Drôme. Mais alors, quel danger ! Ah là là, on tremble ! Et vous avez donc les mêmes exploitants qui vont vendre leurs terres pour agrandir des hypermarchés, construire, asphalter. En moyenne, c'est à peu près 2000 hectares de terres qui disparaissent tous les ans dans la Drôme. Et alors là, vous n'avez pas une seule manif. Ah ouais, c'est comme ça. Bon, il s'agit donc de protéger aussi donc des forêts, hein, parce que ça nous donne de l'oxygène, du bien-être. On y retourne dans ce beau département de la Drôme, dans le Vercors, respirer. Et là, oula, oula, on aperçoit une maison. À mon avis, c'est pas celle des trois petits cochons.
Ce gros bâtiment, en fait, c'est ce qui servait. Attends, on rentre.
Oui.
C'est ce qui servait à accueillir les chasseurs qui souhaitaient venir passer un week-end ou une semaine pour leur partie de chasse.
Ouais.
Comme des safaris dans les pays en Afrique, en fait, les chasseurs venaient ici, ils payaient leur week-end et ils payaient le droit de chasser et ils payaient aussi leur trophée.
C'est
donc,
ça.
Par exemple, s'ils voulaient un cerf avec X corps, c'était 1000 euros. Ouais. Voilà, donc il y a des forfaits. Et donc là, on est dans le salon avec la grosse cheminée et les restes de.
Ah ben là, vous avez des clous.
Oui.
Et on imagine bien qu'il y avait...
Des choses de pendues. En fait, c'était toutes les têtes, les trophées. Il y en avait là, tout le mur.
Ouais.
Et donc, la première chose qu'on a faite en arrivant, c'est d'enlever ces têtes. Par contre, bah, il reste là le râtelier où étaient posées...
Ouais, on peut mettre des cannes de billard, là, peut-être.
Oui, on va essayer de lui trouver une nouvelle vie. On va les réhabiliter aussi, le reste de la propriété.
Alors, juste rappeler une chose, c'est qu'il y a la chasse vraiment rurale où vous avez beaucoup de gens qui aiment ça, qui aiment aussi la nature, qui vont prélever, comme on dit. Enfin, prélever, ça veut dire tuer. Hein. On rappelle que prélever, ça veut dire tuer. Ce qu'il faut, voilà. Et puis, il y a d'autres formes de chasse où là, l'argent absolument s'en mêle. Effectivement, on paye des trophées. Et là, il y avait très souvent, c'est juste un constat, hein, c'est des faits, là, ce que je dis là, bah, des gens des villes, des urbains, de Lyon, de Grenoble, ou d'ailleurs, qui venaient effectivement pour se faire un trophée, quoi.
Oui,
puis donc il y avait des moyens, pas les mêmes hein, que je parle.
Bah déjà, il faut aussi pouvoir payer son week-end, payer son trophée, bien venir sûr. Avec ses armes, enfin bon, il y a un coût. On l'a vu sur l'historique qu'on a trouvé dans le bureau, il y a des photos avec des hélicoptères, en fait, des notables arrivés, se poser là dans la prairie juste à côté, en hélicoptère, pour passer leur week-end ici.
Mais il faut que tu arrives avant lui, autrement il te sent venir. Et... Ça a du sentiment, ces animaux-là. Parce que quand tu rentres dans le bois, là, ben, il faut pas que tu sentes l'homme. Ben, il faut que tu sentes le bois. Même que tu sentes l'animal. Plus tu sens mauvais, meilleur c'est.
Vraiment, la problématique, et c'est un des combats de l'espace qu'on mène et qu'on aimerait vraiment faire avancer, c'est de dénoncer ces chasses en enclos. Parce qu'en fait, il y a la chasse, on peut être pour, on peut être contre, voilà, il y a la chasse dans les campagnes, ça c'est un sujet. Là, le sujet, c'est la chasse en enclos. Ça veut dire que les animaux sont enfermés, sont détenus prisonniers et on peut leur faire les pires choses possibles. On peut les faire souffrir, on peut les faire s'épuiser, leur courir après, faire entraîner des chiens dessus. Voilà, il y a beaucoup de violence et de cruauté dans ces parcs. Et le souci aussi, c'est que les agents de la police de l'OFB, l'Office... Française de la biodiversité, n'a pas le droit de rentrer dans ce type de parc parce que c'est une propriété privée. Donc, à part avoir un mandat d'un procureur pour avoir le droit de rentrer, personne ne peut venir vérifier ce qui se passe dans ces enclos de chasse.
Alors là, Madeleine, on est un peu plus bas. On arrive au point d'eau. On a une petite enfilade, on va dire, de mâts. Oh, et alors là, voilà. Trône...
Voilà, bah, vous voyez, Denis...
Trône à Mirador.
Ça, c'est l'exemple type de ce qui se passe dans les enclos de chasse. On a les points d'eau, donc les seuls endroits où les animaux vont devoir venir pour s'abreuver, pour se nettoyer, pour faire leur petit spa.
Et il y a quoi ?
Bah voilà, il y a le Mirador juste à côté. Les chasseurs se mettent là en mode un peu entourloupe, embuscade et ils tirent quand les animaux viennent là pour boire.
Même le gars qui est assez myope, et il arrive à en buter. Là. Ah oui, d'accord. Bon, bah là, ce ne sera plus le cas. Là, on a des affûts qui sont très, très bien placés. Alors, c'est le point commun entre le naturaliste et le chasseur. Il sait très bien où placer ses affûts.
Ouais, c'est bien planqué.
Bah, voilà, celui-là, c'est un affût qui est vraiment bien camouflé, hein, ouais. Avec le petit grillage un peu en hauteur. Après, on verra tout le long de la promenade qu'il y a aussi juste des postes qui, eux, sont moins planqués. Et
d'accord.
Ça servait surtout à faire du signalement dans le cadre de battues.
Alors Madeleine, ça a été chaud hein, ici quand même, au moment de l'acquisition.
Hein. Là, ça a été la bataille. Plus de 12 mois en fait pour d'abord réunir les fonds et répondre à tous nos opposants qui essayaient de nous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas qu'on réussisse à d'une part réunir les fonds et puis essayer de mettre la pression aussi en local pour que ce projet ne se fasse pas parce que c'est l'espace, parce que ça fait peur et puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues et surtout beaucoup d'ignorance sur notre projet.
Mais alors c'est quand même, oui, il y a eu des trous qui ont été effectués donc dans ces enclos, le préfet de la Drôme qui n'est pas du tout écolo, disons-le, qui effectivement vous mettait donc en demeure, enfin c'était
À peine le terrain signé, en novembre, on a reçu un courrier recommandé de la préfecture qui nous disait « on vient de faire le tour de la clôture, il y a des trous, il faut les boucher ». Et nous, on lui a répondu en lui disant ben, « ok, on va faire attention ». On fait le tour régulièrement des clôtures, on était un peu étonnés, mais bon, on a refait le tour, on a vérifié. Et du coup, on en a profité pour lui demander quels étaient les notes, les avertissements qu'il avait fait aux précédents exploitants de chasse. Et en fait, il nous a répondu « il n'y a jamais eu de contrôle avant ». Donc en fait, on se dit que peut-être...
C'est un privilège.
Ben voilà, en fait, on nous fait l'honneur de nous accueillir en nous disant « eh ben, ah, c'est l'espace qui vient d'acheter, ben maintenant on va surveiller ».
Bon, là maintenant, ça s'est calmé. En fait, est-ce que vous avez eu des réactions de chasseurs violentes ou juste bon, bah, en disant « ok, c'est dommage, c'est vendu, maintenant c'est à vous ».
Alors, on a eu deux types de réactions. D'abord, les premières réactions qu'on peut supposer être des chasseurs, mais on n'a pas de preuves. Donc, mais il y a eu des pans entiers de clôture coupés et mis au sol pour qu'on soit obligé de les réparer. Donc, on a eu des actes un peu de malveillance. Et puis, on a eu...
J'aime bien un peu.
Oui, à force, on essaie de plus trop prendre ça.
Vous avez raison.
Parce que c'est violent, en fait. Le combat est quand même violent.
Il faut se faire son airbag, hein, aussi, là, pour...
Oui, passer les menaces de mort écrites sur les réseaux. Enfin, bon, oui. C'est... voilà, c'est charmant. L'autre type d'opposition qu'on a eue, c'est dans la presse, en fait. Des personnes qui parlent de nous, qui nous portent des intentions qui ne sont pas les nôtres. Et pas en face, rien, c'est juste publiquement, on essaie de nous dénigrer ou de porter atteinte à nos projets.
Bon. Vous y êtes arrivé, alors ça...
Voilà, et donc maintenant on a d'autant plus la pression que ce projet a fait tellement de bruit, on a une telle belle couverture médiatique qu'aujourd'hui on est un peu sous le feu de la rampe, on se dit oh, tous nos faits et gestes sont regardés, il faut qu'on soit clean, il faut qu'on montre que ça marche et qu'il n'y a rien à craindre, qu'on n'est pas des Khmers verts et des extrémistes de dingue, on veut juste protéger des bouts de nature.
Petite levée de vent, ça veut dire que là il y a des masses d'air là, qui sont rencontrées. Hop. Qu'est-ce qui vous épate, vous, Madeleine, dans ce lieu? Pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
Moi, je me sens toute petite dans un lieu comme ça. En fait, j'ai le sentiment de m'occuper d'une chose qui est bien plus grande que moi, qui va au-delà de ma vie d'humain, en fait. Là, je ne travaille pas à l'échelle d'une vie. Donc, je sais que je suis en train de poser les bases ou de semer les petites graines pour justement les forêts primaires de demain. On est complètement en immersion dans le vivant, au milieu de ces beaux bois, au milieu de ces animaux, parce qu'on n'a pas encore croisé les biches et les éléphants, mais ça ne saurait tarder, parce qu'ils sont là, ils passent régulièrement.
Éléphant en plusieurs mots. Hein. C'est ça. Peut-être on a encore un peu trop de clarté, hein, quand même, pour qu'ils sortent là.
Là, dans les parties pas ombragées, il fait encore trop chaud pour eux. En fin de journée, ils viennent beaucoup plus tranquillement. Et...
L'harmonie du vivant, elle est là. On voit aujourd'hui plein de sommes d'actions, petites, grandes, colibris, coquelicots, etc. Absolument indispensables. On est relativement peu sur une globalité, on va dire, du vivant. C'est-à-dire que vous avez ceux qui vont planter les arbres, vous avez deux qui vont se battre contre quelque chose. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de regard global?
C'est un peu ça, c'est même beaucoup ça qu'on essaie de faire sur ces réserves de vie sauvage, c'est-à-dire qu'on va préserver dans son ensemble. On ne va pas rentrer dans de la protection spécifique. Et là, on va laisser autant les herbes communes, les fleurs banales, les insectes de notre quotidien. En fait, ici, ce sera la place pour tous ces animaux. Ils seront, enfin, ces animaux et ces végétaux, et tout le monde sera préservé là du fait de l'action globale.
Alors, ça va être un régal aussi pour les chevêches, parce qu'il y a des milieux donc ouverts. Il y a des arbres, comme il faut. Voilà.
Oui, on a découvert la petite chouette-ulotte qui est là depuis, depuis 2 ans. Donc elle a son petit arbre, on n'essaie de pas aller trop près, de ne pas la déranger. Mais on l'entend régulièrement et rien que d'entendre son chant, de se l'imaginer, et ben moi ça me réjouit le cœur.
Les mots, c'est vraiment ça pour vous, c'est dynamique du vivant, c'est-à-dire refaire avec la nature et pas contre. Sans chercher d'ailleurs à la mythifier. Hein.
Non, pas du tout. Et puis la nature, des fois la nature est belle, des fois la nature est cruelle, et des fois la nature fait ce qu'elle a envie. Et même de dire le mot nature, c'est même pas adapté en fait, c'est le vivant dans son ensemble. Ouais. Parce que nous, on est vivant, les sols sont vivants, les végétaux sont vivants, les animaux, enfin tout le monde est vivant. Et donc c'est laisser les fonctionnalités et cette dynamique de vivant s'épanouir et en plus repartir. Et c'est là qu'on voit que c'est très résilient et que c'est magique.
Je vous ai présenté avec plaisir une partie de la vie d'une association qui dérange, donc l'ASPAS, avec une directrice, on l'a bien compris, bien motivée, très active, Madeleine Rubin. Et en tout cas, ils sont dans le sens de l'histoire. Et si vous souhaitez donc avoir des informations, ne vous gênez pas, le site de CO2 Mon Amour est fait pour cela. Merci à Alexandre Chenet qui a mixé ce reportage, à Xavier Pestugia qui l'a réalisé ainsi que l'émission, à Camille Blanès. Alors la semaine prochaine, eh bien ce sera le portrait d'un jeune naturaliste de 15 ans en Moselle et qui s'appelle Victor Noël. Normalement, le répondeur devrait fonctionner. 01 56 40 40 35. Le Twitter Denis Chessou. Et puis bah pour les podcasts, vraiment n'hésitez pas, que ce soit pour l'Atu du Mont-Petit-Loup ou CO2 Mon Amour. Je vous souhaite un excellent week-end.